mini-série Les enfants HPI, épisode 3, dédiée au harcèlement et au rejet. Je sais, ce sont des sujets importants et lourds, mais abordés sans dramatiser, vous allez voir. Pour en discuter, je suis toujours accompagnée par Franck Robert, créateur du cabinet de conseil, de formation et d'accompagnement intitulé Inclusive et situé à Toulouse. Je suis Sylvie Richard, je réalise l'interview, l'enregistrement et le montage. Et je vous souhaite la bienvenue sur mon podcast « Heureux et surdoué, zèbre ou HPI », le podcast qui explore le haut potentiel pour vous aider à bien vivre le vôtre. Si vous aimez ce podcast, sachez qu'il est 100% indépendant, autofinancé, préparé sur mon temps libre et que je ne suis pas podcasteuse de métier. D'où, parfois, certaines imperfections que j'essaie de corriger. J'ai à cœur de diffuser de l'information de qualité pour que ce podcast vous aide dans votre quotidien à mieux vous comprendre. Et si c'est le cas, je vous invite à laisser un commentaire 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est très utile pour le référencement, ça permet à d'autres atypiques de découvrir le podcast et ça m'encourage aussi à poursuivre ce travail, d'autant que j'utilise assez peu les réseaux sociaux pour le faire connaître puisque je n'ai pas développé d'Instagram par manque de temps. Et publie pas beaucoup sur LinkedIn que je trouve pas forcément très très facile et très confortable. Donc je vous remercie beaucoup pour vos écoutes et je remercie aussi les auditeurs ou auditrices pour leurs récents commentaires sur Apple Podcast. J'espère que cet épisode vous plaira tout autant que les précédents. Maintenant je laisse place à l'épisode et je vous souhaite une bonne écoute. Alors Franck, on va continuer pour ce troisième épisode, troisième partie donc de notre sujet, et on va parler de quelque chose un petit peu d'actualité déjà, puis peut-être un petit peu lourd, mais un sujet qui est vraiment important et que je me souviens qui te tenait vraiment à cœur quand on a échangé la première fois, c'est de parler des risques de harcèlement ou de rejet des HPI. Et je voudrais introduire ça par une petite phrase que tu m'avais dite et que j'avais notée, qui est « Tous les HPI ne sont pas victimes de harcèlement, mais tous le sont de rejet ». Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, en fait, exactement?
Ça veut dire que c'est pas une fatalité d'être harcelé. C'est pas parce qu'on est différent qu'on va forcément subir un harcèlement. Mmh. On va revenir dessus juste après. Par contre, le profil même du HPI, comme on en a parlé tout à l'heure, c'est un profil qui est très spécifique et qui est statistiquement minoritaire, quel que soit le pourcentage qu'on lui attribue, fait que il est vu comme étant très différent et donc il y a des traumatismes de rejet qui arrivent tout le temps, qu'on le veuille ou pas, y compris dans la petite enfance, parce que c'est instinctif, c'est quasiment animal que de rejeter ce qui ne nous ressemble pas. Donc, au sein de la meute, où moi j'aime bien utiliser le vilain petit canard d'Andersen, où souvenez-vous ce conte où il y a une maman canard qui a des petits canetons, et parmi les canetons, il y en a un qui est très différent, qui est noir, qui est hideux, on trouvera la différence qu'on veut, et il se fait rejeter, en fait. Il n'est pas aimé par sa maman canard, et les canetons se moquent de lui, etc. Et dans le conte d'Andersen, en fait, il s'avère que c'était pas un canard, c'était un cygne. Un cygne, cet oiseau majestueux, digne, blanc, formidable. Et le HPI, c'est un petit peu pareil. C'est pas que c'est un oiseau qui va être extraordinaire, mais il est différent du reste de la portée. Donc il est différent, en fait, des autres enfants parce que, voilà, son profil, c'est moins de 10% de la population. Il est différent, donc il va être rejeté. Mais il faut pas oublier, en fait, que, bah, il va être quelqu'un quand même. D'accord? Mais cette différence fait que, bah, tous les HPI, ils subissent du rejet, ne serait-ce que dans le regard des autres. Et ça peut durer toute une vie. Et ces traumatismes, en fait, c'est comme des micro-coupures sur le bras. Vous les portez toute votre vie. Ces scarifications des autres qui vous rejettent. Et en fait, ça fait votre carapace, vous vous durcissez ou pas. Mais vous avez toutes ces marques de rejet que vous accumulez pendant toute votre enfance. Et c'est pas pour ça que vous allez être harcelé. Mais néanmoins, réfléchissons deux minutes au harcèlement. Qu'est-ce que c'est le harcèlement ? D'abord, c'est très spécifique, hein. C'est pas un jeu entre enfants, c'est pas des moqueries. Il y a des définitions qui sont très claires sur le harcèlement. Je le redis juste là par acquis de conscience. Le harcèlement, c'est une brimade morale, physique, psychologique, qui a lieu contre une victime qui n'a pas les moyens de se défendre de façon répétée. D'accord? Okay. Donc c'est pas juste une moquerie une fois, c'est pas juste une insulte dans un coin, d'accord? C'est que il y a un enfant qui au moins deux fois a subi des brimades psychologiques ou physiques.
Il y a une volonté de nuire.
Il y a la volonté de nuire, de faire du mal, et surtout le critère qu'on retient, c'est qu'il n'a pas les moyens de se défendre lui-même.
D'accord.
Parce qu'il comprend pas, parce que il comprend pas qu'il est harcelé ou que c'est une insulte, parce qu'il ne sait pas comment se défendre, parce qu'il est chétif, parce qu'il est vulnérable, etc. Donc le harcèlement, en fait, c'est une violence qu'on reçoit et contre laquelle on peut pas se défendre et de façon répétée. Un enfant HPI a tous les risques d'être victime de harcèlement. Parce que il dénote, parce que il est différent, parce que il a des capacités intellectuelles qui scolairement le mettre au-dessus de la moyenne naturellement, ou vont le faire sortir de la masse des résultats scolaires de sa classe ou de son groupe d'âge. Donc les enfants qui sont pas HPI vont le voir, il va dénoter. Et ils ont naturellement envie de le rejeter. Parce qu'il leur ressemble pas, parce que quand on est enfant, on n'a pas fait tout le travail sur l'acceptation de la différence, ou parce qu'en fait, cet enfant qui est brillant, il fait passer tous les autres pour des cancres, quoi. Mm-hmm. D'accord?
Et ils ont même du mal à lire. Mais il n'est pas toujours brillant.
Mais il n'est pas brillant, mais il a des facilités, ça se voit. Il ne suit pas en classe, il a des résultats. Ou il ne suit pas en classe, il arrive à répondre. Ou alors, il a toujours la bonne réponse, il a le doigt levé constamment.
Ouais.
Ou alors, il a juste des lunettes, et il résout les problèmes sur l'ardoise en un temps record. Ouais. Donc, il y a des signaux qui montrent qu'il a des capacités intellectuelles un peu hors de la moyenne.
Oui, parce que même s'il n'a pas forcément non plus, parfois il y a des élèves qui n'ont pas de bons résultats, mais qui, par moment, vont y avoir des fulgurances, où ils vont avoir des réponses hyper adaptées, hyper justes, et qui peuvent trahir, en fait, effectivement, leur mode de fonctionnement par rapport à l'ensemble.
Ou même s'ils essayent de rentrer dans la masse, parce qu'on a parlé dans l'épisode précédent de la communication et du fait de s'adapter, d'avoir des masques sociaux, même s'ils font tous les efforts pour appartenir à ce groupe, il y a un moment où ils vont dire quelque chose, ils vont se comporter d'une certaine façon, où ça va dénoter. Voilà, comme le petit canard d'Andersen, où il a beau nager avec les autres canetons, on voit bien qu'il n'est pas un caneton. Donc, il y a quelque chose qui va sortir. Et les enfants autour de lui, ils vont ou avoir envie de le mettre à part, ou alors vraiment, parce que c'est insupportable de l'avoir dans les parages, et on va voir pourquoi, eh ben on le harcèle. Et on a besoin de lui faire du mal. D'accord? Et donc, le harcèlement, c'est cette mécanique-là. C'est la mécanique du harceleur qui souffre tellement à l'intérieur de lui d'une absence d'estime de soi consolidée qu'il s'en prend à l'autre parce que ça lui fait du bien que l'autre souffre à sa place.
D'accord.
Donc, la mécanique du harcèlement, c'est le harceleur qui souffre et qui transfère sa souffrance sur une victime qu'il va faire souffrir. Et du coup, il oublie sa propre souffrance. D'accord? Donc, on voit là que le HPI, l'enfant HPI, présente beaucoup de caractéristiques pour que il y ait un enfant qui souffre et qui fasse souffrir l'autre en représailles ou en transfert de souffrance. Mmh. D'accord? Donc, il faut penser à ça. Si on parle du harcèlement pour l'enfant HPI, il faut parler des signes. D'accord?
Okay.
Alors, non, votre enfant qui est HPI ne sera pas forcément harcelé. Par contre, le risque est grand et ça demande aux parents d'être vigilants d'un certain nombre de signaux. D'accord? Le premier signal, c'est de voir que votre enfant n'a pas de groupe de copains, qu'il n'est pas intégré, d'accord, et que il réussit ou que il a quelque chose qui se voit qu'il est différent, d'accord, parce que sinon votre enfant il fait tout le nécessaire, il s'adapte particulièrement, il a des groupes de copains, ou alors il est le fripon le sacripant du groupe,
ouais.
Parce que du coup il attire l'attention sur lui, ça lui permet de s'intégrer, voilà, c'est un artifice social. Mais si vous voyez qu'en fait, il dénote, bon, déjà, vigilance. Bien. Ensuite, on sait qu'un enfant qui est harcelé, il va se mettre à être de plus en plus triste. D'accord? Il y a quelque chose qui va embrumer sa journée, il va rentrer, il va être un peu triste, il va être un peu absent, voilà. Bon, c'est pas parce que votre enfant aussi regarde dans le vide ou est un peu fatigué qu'il est harcelé. Mais le harcèlement va commencer à lui mettre un coup au moral.
Oui, voilà. Forcément.
Forcément. Ensuite, si le harcèlement peut être du racket. Le racket, c'est le fait de lui réclamer des contreparties sur son argent de poche, ses objets, sa nourriture. Il va être obligé de céder son goûter ou il va se faire piquer le dessert à la cantine. Voilà, c'est du harcèlement tout ça. Et donc, Si vous voyez les objets qui disparaissent, ou si vous voyez qu'il a de l'argent de poche que vous lui donnez, mais que finalement il peut plus s'acheter quoi que ce soit, c'est un autre signal matériel du fait qu'il est harcelé. Et la dernière chose, c'est évidemment que ben, il traîne des pieds pour aller à l'école. D'accord ? Ouais. Il va avoir de moins en moins envie d'aller voir son agresseur.
La boule au ventre.
La boule au ventre, j'ai pas envie, notamment le dimanche soir. Parce qu'on a passé deux jours sans son agresseur, donc du coup c'est difficile d'y retourner le matin, voilà. Donc vous avez des signaux. Comment est-ce que on parle du harcèlement avec un enfant? Alors vous lui ferez jamais cracher le morceau très facilement. Parce que ce qui se passe aussi dans la victime de harcèlement, c'est qu'il y a la honte. Quand on est victime de harcèlement, on a honte de soi. Pourquoi est-ce qu'on a honte alors qu'on est victime? Ben parce qu'en fait, on n'a pas le courage d'affronter son harceleur. Et ça, c'est difficile à vivre à l'intérieur de soi. L'estime de soi aussi, là, on prend un coup. Donc on a honte, donc on va pas en parler. Non, ça va aller, il n'y a pas de souci, pas de problème, etc. Et puis surtout, si jamais on en parle, ben on est celui qui dénonce. Donc du coup, socialement, il y a un coût social à assumer aussi sur « Ah ouais, t'es qu'une balance, c'est toi qui as rapporté, etc. » Donc il y a un coût social qui empêche. L'idée, c'est de dire « Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un autour de toi qui a du mal à accepter qui tu es ? Ou est-ce qu'il y a quelque chose dans le fait d'être toi-même qui coince à l'école ? Ou est-ce que tu sens qu'il y a des élèves qui ont du mal à communiquer avec toi ? » Donc vous faites une stratégie du détour.
D'accord.
Vous parlez pas de harcèlement, parce que le harcèlement, en fait, c'est un crime aux yeux. D'accord ? C'est un délit, c'est très grave aux yeux de votre enfant. Dites, il y a quelque chose qui coince à l'école, ou tu te sens intégré, est-ce que tu as l'impression, en fait, que les autres acceptent qui tu es ? Ou est-ce que tu fais vraiment des efforts ? Est-ce que tu as l'impression de faire des efforts pour te faire accepter alors qu'en fait, c'est pas toi?
Ça devrait être naturel.
Ça devrait être naturel. Donc, vous passez par une stratégie du détour. Voilà. Donc, ça, c'est pour essayer de le détecter. Une fois que vous avez la confirmation ou que vous pensez très fermement que votre enfant est harcelé ou qu'il rentre avec des coups, tout simplement, ou qu'il est battu ou qu'il s'est fait, voilà, il s'est fait molester, insulter et qu'il craque à un moment, je conseille toujours aux parents de pas céder à la panique. D'accord. Le harcèlement, c'est un aléa scolaire qui est grave, qu'il faut absolument traiter, mais qui vous fait du mal, qui vous fait souffrir, parce que dans votre rôle de protecteur, ben, vous avez l'impression d'avoir failli, et vous voulez absolument protéger cet enfant qui est déjà différent, et vous vous en voulez. Donc l'idée, c'est de souffler un peu, de pas sauter tout de suite dans le bureau du directeur ou de la directrice, de pas envoyer un email immédiatement, parce que vous aurez pas forcément ni les bons mots, ni les éléments qui permettent de travailler. Donc, réfléchissez à ça, tout simplement. Parlez avec votre enfant, parce que c'est surtout ça. Il a besoin de savoir que vous allez le soutenir, mais vous avez besoin d'avoir les éléments. Qui, quand, comment, qu'est-ce qui s'est passé, voilà. Et donc, c'est des éléments que vous apporterez pour résoudre le problème du harcèlement. On va pas rentrer trop dans ce sujet-là, parce que ça peut être très long, le traitement du harcèlement. L'autre chose qu'il faut vous dire, c'est qu'un enfant HPI, ça peut être un harceleur.
Alors, attends, juste une chose. Pour terminer, c'est que ne pas surréagir, c'est ce que j'ai entendu donc dans ton conseil pour les parents, mais il faut réagir quand même.
Ah, il faut absolument.
C'est indispensable.
Il faut absolument réagir.
Que, voilà, il faut pas.
Ne minimisez pas.
Voilà, ne pas minimiser, non. Ne pas faire la sourde oreille, encore pire.
Non.
C'est vraiment valider, prendre en compte, accueillir.
Oui.
Et
tu as raison de revenir dessus en fait, parce que quand on a été harcelé et que on n'a pas eu le traitement nécessaire de ce harcèlement, en fait, on est rentré dans un statut de victime. Et si on continue à être une victime, on l'est toute sa vie. D'accord ? J'ai des enfants, des adolescents, que j'accompagne pour l'estime de soi, qui ont de grosses difficultés à construire leur vrai self, à diminuer en fait leur masque social. Et quand on creuse un peu, ils avouent avoir été victimes de harcèlement, ou d'une agression, agression sexuelle, d'attouchement, etc. Et que le traitement de ça n'a pas eu lieu correctement par les adultes autour, pour des raisons X et Y, et ils sont restés des victimes. Et quand on reste une victime, en fait, ça bloque complètement le développement de l'identité, parce qu'en fait, nous ne sommes qu'une victime. D'accord? Et on sait que ça bloque la construction de l'estime de soi. Donc absolument, si vous...
Toute la vie est à l'arrêt, en fait.
Toute la vie est à l'arrêt, et surtout, on a des enfants qui sont très dépressifs, et qui rentrent, en fait, dans des pensées d'automutilation, de scarification, voilà, de grandes souffrances, des choses qui sont vraiment graves. Donc, il faut sortir du statut de victime. Et donc, si votre enfant subit quelque chose, une insulte, des coups, un harcèlement, il faut absolument le traiter, même si c'est difficile et que vous avez face à vous parfois des adultes qui veulent pas entendre. Il faut aller jusqu'au bout parce qu'il faut sortir votre enfant de son statut de victime. Et pour le sortir de son statut, il faut lui dire « Je te crois, tu as raison, je vais t'aider, mais ça n'est pas l'ensemble de toi que de te faire harceler. D'accord ? Tu es une autre personne que cette personne qu'on a harcelée. D'accord ? Donc ça, c'est un travail qui peut se faire pas en coaching, mais aussi avec un psychologue. Mm-hmm. Un psychologue qui... Mais il faut vraiment le traiter, il faut mettre le doigt dessus. Il faut pas dire « mon enfant a un souci » et puis laisser le psychologue faire. Ouais. Il faut dire au psychologue « voilà, il a été victime de harcèlement et je souhaite qu'il sorte de son statut de victime. Est-ce que vous pouvez aider ?»
Okay. D'accord. Bon.
Mais merci d'avoir,
moi, je t'en prie.
D'avoir précisé. <C'est... rire> Donc, on revient à cette idée que l'enfant HPI peut être aussi harceleur. Il peut être harceleur parce qu'à un moment, il peut être révolté contre ce rejet. Il peut vouloir faire du mal aux autres parce que lui souffre. Mm-hmm. On voit bien la mécanique harceleur-harcelé, c'est de faire souffrir l'autre pour diminuer sa propre souffrance. Donc, un enfant HPI, il peut harceler les autres. Il peut avoir cette volonté de faire souffrir l'autre. Surtout qu'en plus, comme il a des capacités intellectuelles qui sont plutôt dans l'analyse, la finesse, la stratégie, la vision stratégique, etc., il va pouvoir trouver des stratagèmes qui sont très raffinés, qui sont probablement aussi très malins, subtils, etc. Donc, il a l'intelligence, en fait, du malfaisant.
Ok.
D'accord ? C'est pas des anges, hein, les enfants HPI. Il faut pas qu'on les voit comme ça. C'est pas non plus des démons. Mais ils ont les capacités aussi d'être un petit peu fripons, sacripants, ou même de harceler les autres. L'autre chose aussi, c'est que, comme on disait, grâce à toi, si on sort pas de son statut de victime de harceler, on grandit avec cette souffrance à l'intérieur de soi. Et on sait que le harcelé devient très souvent le harceleur. Au même titre qu'on sait que les enfants battus deviennent des parents agressifs, des parents violents. Donc, si on reste un enfant victime de harcèlement, on peut devenir à un moment dans sa vie harceleur.
Ouais.
D'accord. Mais même plus que ça, on peut devenir un adulte toxique. Donc le harcèlement chez l'enfant HPI, c'est vraiment quelque chose qui est spécifique. On en parle parce que tous les enfants HPI n'ont pas été harcelés, mais il y a de très grands risques, d'accord ? La statistique est probablement très très élevée. On sait que la statistique des enfants est très élevée en France. Chez les enfants HPI, il n'y a pas d'études spécifiques sur ça, mais moi je suis sûr que on doit toucher 9 enfants sur 10 d'avoir vécu au moins un épisode de harcèlement.
D'accord, ok. Ouais.
Mais il faut être vigilant. Je veux dire, c'est le rôle du parent d'être vigilant. C'est pas une fatalité. Ça va arriver. Si vous y réfléchissez, que vous avez installé une communication sereine, transparente, authentique avec votre enfant, comme on en parlait dans l'épisode précédent sur la communication, que vous ouvrez en fait à l'éducation des émotions, c'est un canal de communication qui va être ouvert et en fait ça va sortir très rapidement. On n'en fera pas toute une histoire, d'accord ? C'est un enfant qui est harcelé mais qui a confiance dans ses parents, qui les admire, il va pouvoir en parler assez rapidement. Et les parents vont avoir la bonne réponse parce que ça fait partie, en fait, d'une culture familiale que de parler de nos vécus.
Ouais, et puis ça me fait penser aux réseaux sociaux aussi, enfin, des épisodes personnels, mais du coup, ça me fait penser à des petites histoires, voilà, de ma vie, où il y a aussi les réseaux sociaux, quand les enfants, en fait, ils restent connectés au monde à longueur de temps, et du coup, ils restent aussi attaquables à toute heure.
Alors ça, c'est le cyberharcèlement. Le cyberharcèlement, c'est très très vicieux parce que c'est en dehors du regard des adultes.
Ouais.
Et puis surtout, c'est surmultiplié en fait le harcèlement à travers les écrans, les réseaux sociaux, parce qu'en fait, le harceleur est protégé par son écran. Il a l'impression d'être intouchable et en fait, rien ne lui arrivera parce qu'il se met pas en danger. Et donc du coup, c'est encore plus violent à travers les réseaux sociaux. Les enfants HPI ont une tendance, alors ils sont extrêmement présents sur les écrans, d'accord, parce que comme on disait, ils ont une grosse appétence d'avoir des informations.
Ouais, c'est une manière de satisfaire leur curiosité.
C'est une manière de satisfaire leur curiosité. Il faut penser aussi que cet outil qui est le prolongement de notre bras nous permet d'ouvrir une fenêtre sur le monde à tout moment, et donc c'est un outil d'ubiquité. Vous êtes à deux endroits à la fois. Donc si l'endroit où vous êtes et le temps présent dans lequel vous êtes ne vous satisfait pas parce que vous êtes dans un endroit où vous voulez vous échapper ou que vous vous ennuyez, vous ouvrez cette fenêtre et vous allez ailleurs. Les enfants adorent ça, en fait. Ils sont appelés toujours vers cet ailleurs. Et surtout les enfants HPI qui sont très friands d'avoir toutes sortes d'informations, des sources, leur cerveau est bouillonnant, donc en fait, ils vont aller butiner constamment à travers les écrans, les réseaux sociaux. Donc c'est pas un mal, parce que du coup, vous contrecarrez l'ennui chez l'enfant HPI. Malgré tout, ils sont bizarrement, paradoxalement, dans ceux que moi j'ai pu rencontrer, ils sont pas extrêmement vulnérables au cyberharcèlement. Pour deux raisons. D'abord parce que je pense que ils fréquentent des contrées numériques qui sont pas propices au harcèlement. Ils vont regarder des TikTok, ils vont regarder des Insta, ils vont être sur Snapchat. Alors Snapchat c'est peut-être le réseau le plus dangereux. Ils vont être sur YouTube, ils vont regarder des sites, des webinaires, etc. Voilà. Mais donc c'est à sens unique. D'accord, il n'y a pas vraiment d'interaction sur Instagram, c'est pas vraiment un réseau de messagerie.
Oui.
Hein, ou TikTok, oui. C'est pas vraiment un réseau de messagerie. On peut se mettre en avant en faisant un TikTok et avoir des commentaires de bashing ou avec des trolls, mais c'est pas si fréquent que ça en fait. Et ça m'amène à vous dire en fait, le réseau TikTok, il y a peu de HPI, d'enfants HPI sur le réseau TikTok, parce qu'en fait c'est une exposition de soi. Et comme on a dit. Bah, au niveau de la communication, c'est difficile en fait de s'exposer parce que on n'est pas très à l'aise avec son image, avec sa personnalité. Donc, il n'y a pas beaucoup de HPI qui se mettent en avant,
d'accord,
ou qui s'exposent sur les réseaux TikTok. Ça se fait plutôt plus tard, vers 17-18 ans, parce qu'il y a un enjeu de sélection. Et donc, c'est pareil. Le cyberharcèlement, c'est quand on est extrêmement présent sur les logiciels de messagerie. Alors. Le premier, c'est les WhatsApp. Il y a les groupes Snapchat, il y a les groupes WhatsApp. Et donc là, il y a maintenant dans chaque classe au moins un groupe Snapchat ou un groupe WhatsApp. D'accord ? Donc les HPI vont être dedans. Et de ce que j'ai pu voir, de discuter avec eux, en demandant, en fait, ils se mettent toujours un peu en retrait des embrouilles.
D'accord.
Donc dès qu'il va y avoir embrouille, il y a toujours embrouille hein, sur les groupes de communication entre les ados.
À un moment ou un autre.
À un moment ou un autre, ça s'attrape, ça s'envoie des noms d'oiseaux. Les HPI ont tendance à regarder ça d'un petit peu loin. D'abord parce que ça les intéresse pas, ils ont une forme de maturité par rapport à leur classe d'âge, et parce qu'en plus ils sentent bien en fait que s'ils mettent le doigt dans l'engrenage, ils vont se faire happer et c'est eux qui vont dérouiller. Donc j'ai l'impression que ils sont un petit peu protégés de ça naturellement par leur comportement sur les réseaux. Et on peut renforcer en fait cette aptitude naturelle en discutant avec eux. Chacun fait comme il veut, hein, sa politique éducative en matière de réseau, en matière de téléphone, etc. Chacun est maître dans son domaine, dans son royaume. Mais une chose importante, c'est que les parents doivent être présents dans cet univers-là. Ne serait-ce que de regarder où va votre enfant. Voilà. Vous êtes réticent si vous voulez, mais au moins vous savez, est-ce qu'il va sur Snapchat, est-ce qu'il va sur TikTok, est-ce qu'il va sur YouTube, vous êtes au courant des réseaux. Et puis, vous avez le droit aussi de musarder avec lui. C'est-à-dire qu'à un moment, vous dites, bah vas-y, je voudrais voir ce que tu regardes, non pas pour le critiquer, mais ça m'intéresse. Qu'est-ce qui constitue ta propre culture, d'accord ? Et c'est pareil, c'est comme regarder un documentaire violent. On conseille toujours aux parents de le regarder et de faire des commentaires. Parce qu'on a notre propre opinion. Ben moi, je trouve que c'est pas terrible qu'il dise ça, ou je trouve que ces images sont un peu violentes à encaisser. J'ai du mal, moi, à les regarder. Et donc là, c'est pareil, vous rentrez dans une communication qui est une communication adulte-adulte, encore une fois horizontale, où vous n'êtes pas dans une position de parent supérieur qui donne des conseils ou qui sait mieux. Vous êtes dans un échange, vous vivez les choses ensemble.
D'accord.
Donc vous regardez un TikTok avec votre enfant, vous regardez un Snapchat avec votre enfant, vous regardez... n'importe quoi, une vidéo YouTube, et vous réagissez avec votre vécu de parent. Et c'est là où vous allez créer une communication aussi dans la confiance, dans le respect. Vous n'êtes pas en train de lui dire que ce qu'il regarde, c'est idiot.
Ouais.
Parce que dans ces cas-là, vous le traitez d'idiot en même temps. Vous dites, bon, bah, d'accord, ça fait partie de ton univers. Moi, je pense à ça, et ça me fait réfléchir à ça, etc. Et je trouve qu'en termes de cyberharcèlement, c'est là où vous allez, en fait, mettre des garde-fous très naturels. Où il va entendre votre esprit critique. Il va créer son propre esprit critique,
oui,
et
il va s'autoriser
en fait à critiquer lui-même et à pas gober. Et du coup, le cyberharcèlement, j'ai l'impression que chez les enfants HPI, grâce à leur dyssynchronie, l'écart entre la maturité de l'esprit et l'âge de leur corps, cette capacité en fait à pas vivre de front ce que la classe d'âge, leur classe d'âge vit de front. Donc, je dirais le cyberharcèlement, c'est un risque qui est un petit peu moindre que le harcèlement
en général.
À l'école en général.
Ok, d'accord. Et quelle est la clé du coup que tu donnerais par rapport à ce sujet ?
Alors c'est à propos du rejet. En fait, c'est un sujet très très important, le rejet. On l'a dit, le HPI est sujet au rejet par définition. Et on n'y peut rien, c'est comme ça. On fait partie d'un groupe minoritaire. Et face à nous, on a donc une majorité. Une majorité qui ne fonctionne pas cognitivement comme un HPI. Et personne n'y peut rien. D'accord? Il y a des voitures rapides, il y a des voitures lentes, il y a des animaux rapides, il y a des animaux lents. C'est comme ça. La nature a fait que c'était comme ça. Mais il faut prendre conscience d'une chose, c'est que cette masse, c'est-à-dire cette majorité, elle a un mode de fonctionnement. On a donc des règles. On fait société, c'est-à-dire qu'on va, on veut vivre ensemble, et donc on doit se donner des règles. Et quelles règles est-ce qu'on a déterminées pour l'ensemble de la population?
Ce qu'on appelle la norme.
Donc on va créer ce qu'on appelle une norme.
Ouais.
D'accord? Et cette norme, la norme de comportement, la norme de pensée, qui est-ce qui l'a écrite? Eh ben, évidemment, c'est la majorité qui l'écrit.
Ouais.
Puisque c'est le plus grand nombre, et ça va s'appliquer au plus grand nombre, cette norme, elle va pas s'appliquer pour une minorité, elle va s'appliquer pour le plus grand nombre. Donc c'est donc cette norme, elle est écrite par le groupe cognitif qui est pas le vôtre. D'accord? Et cette sensation de décalage dont on parle depuis le début, eh ben, en fait, c'est ça. C'est que vous êtes dans un environnement qui est écrit par un groupe qui est pas le vôtre. D'accord? Donc bien sûr, vous avez les mêmes lois que tout le monde, vous avez les mêmes valeurs morales, vous avez le code éthique qui est comme les autres, mais les codes de communication, par exemple, c'est un petit peu différent. Ou vous allez avoir, les enfants, ça parle pas comme ça à table. Vous voyez? Donc vous avez en fait...
Quand ça a le droit de parler.
Bon. Et vous avez des principes de comportement, en fait, qui s'appliquent à vous et qui vous sont pas adaptés. Parce qu'en fait, c'est la norme.
Ouais.
D'accord. Et la clé, c'est de regarder ça et de s'apercevoir qu'il existe une norme qui a été écrite par un groupe qui est pas le vôtre. D'accord? Et que donc vous fonctionnez avec cette norme-là. Dès que vous commencez à le regarder, que cette norme, elle sort de l'ombre, d'accord? Que dans votre tête, vous vous rendez compte, oui, il y a une norme qui a été écrite par un groupe qui est pas le mien, et donc qui ne me correspond pas entièrement, j'accepte d'être anormal. Je suis hors de la norme. Et c'est normal pour moi, c'est ma norme à moi que d'être hors de la norme. D'accord? C'est pas bizarre, c'est pas étrange. Je suis pas dans le groupe majoritaire de ma société. Okay? Donc, on doit commencer à se détendre sur l'idée que on correspond pas à la norme. Ben oui, on correspond pas à la norme. Ça nous donne pourtant le droit, on a le droit d'exister tel qu'on est. D'accord? Mais si je regarde cette norme, je prends conscience de son existence. J'assume qui je suis. Et il y a une autre chose qu'on peut retourner sur cette histoire de norme. C'est que la norme a le droit de nous rejeter. D'accord? Mais, on a aussi le droit de lui dire qu'il n'y a pas de raison. D'accord? Elle peut nous rejeter parce que finalement on correspond pas alors qu'elle a envie, en fait, de perpétuer sa norme à elle. Mais on a le droit de lui dire, mais moi je te respecte. C'est-à-dire que toi, tes principes, je les respecte. Mais respecte aussi que par certains côtés, moi j'ai aussi d'autres façons de faire qui te portent pas préjudice. On rentre un peu dans des considérations philosophiques là, mais c'est important de les regarder. C'est que la norme s'impose à soi, mais que on peut aussi lui renvoyer notre différence et que ça va bien. On est dans une société qui, soi-disant, est de plus en plus inclusive.
Oui.
On est censé s'accepter les uns les autres. D'accord? Acceptons-nous aussi pour nos différences, même quand elles sont invisibles. Donc, cette norme, elle a un côté très fort, elle a un côté très imposant, mais on peut totalement aussi assumer ne pas être dedans et vivre très bien. Bon, ça diminue un peu l'angoisse. L'autre chose que je veux vous dire, c'est que si on part de la définition que quand on est majoritaire dans un groupe, c'est nous qui déterminons la norme. Et si on renversait la statistique, si jamais dans le monde il y avait 90% de personnes avec du haut potentiel intellectuel et 10% de personnes qui ne le sont pas, qu'est-ce qui se passerait? Ça serait la norme de qui fonctionnerait? C'est la norme des HPI qui fonctionnerait.
Certainement, oui.
D'accord? Donc, ça veut dire que nous, on se sentirait bien. Reprenons cette idée-là. Si on est donc majoritaire dans un espace, on se sent bien puisqu'on est majoritaire. Donc on a notre propre norme. Donc je dis toujours aux jeunes, imaginez qu'en fait vous êtes dans une salle et vous n'avez autour de vous que des personnes avec le même profil que vous. Ça se passerait bien ou pas? Souvent, ils disent, bah oui, on se comprendrait, on parlerait des mêmes choses, etc. Je dis, bon, ben, pour que vous alliez bien, il faut que vous trouviez les personnes qui vous ressemblent. Mm-hmm. Si on part du principe qu'il y a 5% de HPI dans le monde, ça fait quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. D'accord. Y compris dans votre classe. Okay. Donc, cette histoire de normes, ça se renverse. C'est que les HPI peuvent aussi créer leurs normes. Mm-hmm. Il y a des associations de HPI un peu partout en France, qui créent, en fait, ce microcosme de HPI, temporairement, entre eux. Donc, c'est normal, ils sont entre eux, et ils vont bien. Moi, je fais partie d'une association à Toulouse, ça s'appelle Zebrix, ça fonctionne extrêmement bien. On a des réunions, on est entre nous, il y a des jeunes qui viennent, d'ailleurs, et ils découvrent, en fait, qu'ils peuvent être très à l'aise, et là, ils ont les codes de communication entre eux.
D'accord. Voilà.
Donc, okay. Et puis, il n'y a pas de raison. Il y a bien des associations de mangeurs de chorizo. Je vois pas pourquoi il y aurait pas des associations de hauts potentiels intellectuels. Oui. Voilà. Donc, okay. On a le droit d'être entre nous. Et pour diminuer cette sensation de rejet, il faut avoir conscience de la norme et que tout le monde a le droit d'être dans son groupe. Y compris quand on est minoritaire.
Ouais. Ouais. Et justement, en parlant de minorité, j'aimerais bien que tu reviennes, juste un petit peu sur les pourcentages que tu évoques. Parce que tu parles des 5 à 10% de la population. Quand on passe le test, on nous parle de 2,3% de la population. Qu'est-ce que ça t'évoque, toi, ces 2,3% de la population? Est-ce que ça te paraît juste? Et pourquoi?
Bon, c'est un très très vaste débat, ouais. cette statistique du HPI. Il y a beaucoup de points techniques qu'on va pas évoquer là, mais en fait, c'est une statistique qui a tellement de biais statistiques, de biais de confirmation, elle a été construite de façon tellement artificielle qu'en fait, elle représente rien en soi. 2,3 parce qu'en fait, c'était la moitié du pourcentage de personnes qui rentraient pas dans la masse du QI.
Ouais.
D'accord? Donc, techniquement, il y avait 4,6% de la population dont le QI était plus bas que la moyenne et plus haut que la moyenne, d'accord? Donc quand on divise 4,6, ça fait 2,3, donc il y a 2,3% des HPI. C'est absolument pas un calcul qui est basé sur la réalité. Voilà, je vous passe tous les détails.
C'est pas le reflet de la société.
C'est pas du tout le reflet de la société. En plus, quand vous faites passer un test de QI, c'est les personnes qui sont à la recherche de passer un test de QI, qui se font détecter, voilà. Donc il y a tout ce qu'on appelle la masse grise, les personnes qui sont HPI, qui n'ont aucune envie de se faire tester le QI. Et qui, eux, vivent très bien avec leur HPI. Donc, cette histoire de 2,3 n'a absolument aucune signification en soi. Par contre, il faut s'intéresser au fait que c'est ultra minoritaire. D'accord? Et que, comme je disais, le HPI, ça sera jamais 50% de la population. Pas pour l'instant. Peut-être que, dans des milliers de générations, voilà, cette différence génétique, elle aura envahi l'espèce humaine. Mais ça sera jamais 50% pour l'instant. Donc en fait, ça nous dit à nous, les HPI, qu'on est un groupe minoritaire. Et donc, on doit en prendre conscience et on doit l'assumer. Ça a un côté très intéressant d'être minoritaire. C'est que on peut avoir une différence et on peut l'assumer, comme je disais sur la norme. Donc, que vous trouviez 2,3, que vous trouviez 5%, 10%, 15%, ce que vous voulez, dites-vous juste d'une chose, c'est que du coup, vous êtes une minorité et que c'est totalement naturel qu'en face de vous, il y ait des gens qui vous comprennent pas, que vous ne comprenez pas. Et personne n'y peut rien. Voilà, personne n'y peut rien. Donc, cette statistique, pour moi, elle est importante pour ça. L'enjeu, ensuite, c'est de savoir si on est 5%, ben, ça fait 5% de 8 milliards. Si on est 10%, ben, ça fait le double.
Ouais.
D'accord? Donc, ça veut dire que les chances de rencontre doublent au fur et à mesure qu'on fait augmenter le pourcentage. Mais pour l'instant, comme personne n'est intéressé de faire des véritables détections systématiques de la population en France, alors que ça a lieu en Asie, dans certains pays,
okay.
On ne saura jamais combien on est en France.
Ok. Voilà. Bon. Merci Franck pour cette conclusion du troisième épisode. De toute façon, je pense qu'on est d'accord pour se dire que le plus important, c'est pas tellement de savoir le pourcentage, mais c'est surtout de s'autoriser à être soi-même, de trouver voilà les clés qui nous permettent d'être épanouis, d'accepter en fait qui on est, comment on fonctionne, et de laisser cette part en fait s'exprimer sans chercher en fait à la tordre pour correspondre à une norme qui, on a bien compris, est quand même beaucoup plus importante. Du coup, on va parler dans l'épisode 4, si tu veux bien. On va faire une petite coupure et puis après on va parler des HPI qui vont bien.